Accent d'Europe, Catherine Roland.
Choose the Europe you want me to grow up in.
Bonjour à tous, J-1 avant l'ouverture des premiers bureaux de vote pour les élections européennes et ce sera au Royaume-Uni. En Italie, où gouverne une coalition populiste 5 étoiles la Ligue, l'Union européenne est la cible préférée des ministres.
Gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per 20 anni nel nome della precarietà e della povertà.
Récemment encore, le vice-président du Conseil, Matteo Salvini, s'en est pris aux règles budgétaires de l'Union qui doivent être abolies, selon lui. Samedi dernier, le leader réunissait à Milan tout ce qui compte d'eurosceptiques de droite et d'extrême droite, même si la fête a été quelque peu gâchée par le scandale et l'explosion de l'allié FPE en Autriche. L'objectif est encore de faire du groupe Europe des Nations et des Libertés la troisième force du Parlement européen. Les Italiens, eux, doivent se rendre aux urnes dimanche pour ces élections. En tête des sondages, la Ligue, donc, de Matteo Salvini, devant son allié du gouvernement, le mouvement 5 étoiles. Et puis, il y a ce petit parti souverainiste, Fratelli d'Italia, qui fait parler de lui, non pas à cause d'une nette progression dans les intentions de vote, mais à cause du nom d'un candidat, Mussolini, Caio Giulio Cesare, de son petit nom, est le descendant du Duce. Il se présente dans le sud du pays et il jure que le fascisme n'est pas de retour, malgré les ambiguïtés entretenues par sa formation. Reportage de notre correspondant Olivier Bonnel.
Dans cette courte vidéo postée le 7 avril sur les réseaux sociaux, la présidente de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, présente son nouveau candidat, dont le patronyme est le plus célèbre du pays, Caio Mussolini. Une courte présentation d'un candidat patriote qui jure de relancer le développement de l'Italie en partant du sud. Mais le décor n'est pas laissé au hasard, puisque la vidéo a été enregistrée devant le palais de la civilisation à Rome, ce grand monument de marbre, l'un des plus emblématiques de la période fasciste. Depuis qu'il a entamé sa tournée électorale, cet officier de marine de 50 ans, né en Argentine, jure devant ceux qui l'interrogent que la menace du fascisme n'est pourtant pas d'actualité, comme lorsque nous l'avons rencontré lors d'un passage à Rome.
Le fascisme a été une période longue et complexe avec des moments divers. J'ai toujours pensé qu'il était puéril et même de mauvaise foi de juger cette période en termes de bien ou de mal, de bon ou de mauvais. Je laisse ce débat aux historiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être élu au Parlement européen.
Inscrit en 11e position sur la liste du parti post-fasciste, Caio Mussolini aura bien du mal à siéger à Strasbourg, mais peu lui importe, ce qui compte pour lui est de défendre l'héritage de son arrière-grand-père, un tour de force dans une Italie où l'apologie du fascisme est punie par la loi. Sans jamais citer nommément son aïeul, il arrive à faire passer ses messages, comme dans cette vidéo enregistrée sur une place de Reggio en Calabre, où Benito Mussolini avait galvanisé des milliers de chemises noires lors d'un discours historique en 1939.
Je suis sur la place du peuple, à Reggio Calabria. Il y a longtemps, sur cette même place, un discours important a été prononcé où deux thèmes encore très contemporains ont été abordés. Le premier, la question méridionale, l'autre, la chute démographique, les problème de natalité qui était déjà prise en compte. Moi, je ne veux pas qu'à l'avenir, il n'y ait que des dégradations et une place où ne jouent plus que des étrangers.
Sur ses affiches de campagne, son patronyme Mussolini apparaît en grand sur fond de couleur du drapeau italien et ce slogan « L'histoire, l'avenir, l'Italie ». Pour de nombreux Italiens, même si la candidature de Caio Mussolini est marginale, elle est révélatrice d'un pays qui est malade, comme nous l'explique Alessandro, juriste à Rome.
Notre démocratie est pleine de paradoxes. Le nom de Mussolini peut encore apparaître dans la vie politique, même si cela a été la plus grande honte de l'histoire de ce pays. Et puis, on croit à une blague. Un personnage qui s'appelle Caius Jules César ne peut qu'être pathétique d'un point de vue politique et historique.
Partisan d'une Europe des nations, Caio Mussolini semble avant tout incarner un bon coup de communication politique pour la formation Fratelli d'Italia. S'il venait à être élu, il pourrait retrouver à Strasbourg Alessandra Mussolini, petite fille du Duce et eurodéputée depuis 2014, qui se présente, elle, sous les couleurs de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi.
Si les populistes se taillent la part belle dans cette campagne électorale, certains tentent de rappeler l'importance de l'Union européenne. C'est le cas d'Italia in Comune, fondée le 15 avril 2018 par le maire de Parme. Federico Pizzarotti est devenu l'un des visages le plus marquant de l'opposition au gouvernement gouvernement actuel. Cécile de Barge l'a rencontré chez lui en Émilie-Romagne.
Maire de Parme depuis 2012, élu à l'époque avec le mouvement 5 étoiles qu'il a quitté avec fracas en octobre 2016 après 7 ans en son sein, Federico Pizzarotti est aujourd'hui le chef de file pour la région nord-est de l'Italie du parti Italia in Comune qu'il a cofondé. Rebaptisé le Parti des maires, il souhaite remettre au cœur du jeu politique les réalités politiques locales.
Nous avons rassemblé les revendications de nombreux maires, de nombreuses administrations, mais aussi de nombreux citoyens. Ces citoyens qui avaient soutenu ou qui faisaient partie d'une liste civique et qui par conséquent connaissent bien leur territoire. Ils travaillent pour ce territoire, mais ils ne parviennent pas à aller au-delà.
Souvent courtisés lors des élections, les listes civiques ont du mal à accéder aux instances régionales ou nationales. Pourtant, ce sont elles qui doivent relancer la vie politique nationale, mais aussi européenne, estime Federico Pizzarotti, pour qui l'Union européenne doit rester une priorité.
Certaines choses doivent être améliorées, mais si chacun repart chez soi, avec chaque État qui se débrouille tout seul, on ne pourra jamais rivaliser avec les États-Unis ou la Russie. C'est évident qu'il faut qu'on soit ensemble. On a une histoire commune, on a des sensibilités communes. Il faut rester ensemble et on trouvera une solution pour le faire.
Pour les élections de fin mai, Italia in Comune s'est donc allié avec Più Europa plus d'Europe, le parti d'Emma Bonino, député du Parti des Radicaux. Au cœur de leur programme, le travail et l'environnement, mais aussi une clarification des institutions européennes.
Il faut que l'Europe ait son propre gouvernement, mais il faut aussi simplifier l'Europe, la rendre plus compréhensible pour les citoyens. Il faut revoir cette organisation qui fait qu'il y a le Conseil européen, avec des États qui tentent chacun de faire campagne pour ramener quelque chose à la maison, puis le Parlement européen qui vote des lois qui devront être approuvées par la suite. Tout ça complique vraiment la situation.
Une complexité dont profitent certains partis politiques pour tirer à boulet rouge sur l'Union européenne.
Il n'y a pas seulement les anti-européens qui tiennent ce discours. C'est quelque chose que disait Matteo Renzi et d'autres. Alors bien sûr, on dit que tout est la faute de l'Europe et pas la nôtre. Sauf que si on a les mêmes droits et les mêmes devoirs en tant que pays, eh bien, quand on rentre chez nous, il faut que chacun fasse ses devoirs, pour ainsi dire.
À 45 ans, le maire de Parme a promis que s'il était élu, il renoncerait à son mandat européen pour garder sa charge de maire et permettre à des personnages politiques moins connus d'émerger. L'objectif pour lui est de dépasser le seuil critique de 4% afin d'obtenir 3 ou 4 eurodéputés au Parlement européen.
Et dans cette ère où le sentiment anti-européen est caressé dans le sens du poil, prospèrent aussi les théories complotistes, les fausses informations. C'est pour lutter contre les infox que Michelangelo Coltelli a décidé de se lancer dans la bataille de la vérité. Bijoutier le jour, chasseur de fake news le soir, il a créé le blog Boutac à Bologne, le reportage de Cécile de Barge.
Il est 16h environ dans l'une des artères commerçantes du centre historique de Bologne quand Michelangelo Coltelli, 46 ans, rouvre sa boutique.
On a inauguré la boutique 30 ans avant Cartier. Attends, je retire l'alarme.
Sur les étals, peu de grandes marques, mais plutôt des bijoux réalisés à l'ancienne par ses soins. Pourtant, lors de sa pause de la mi-journée ou du soir, quand ses enfants dorment, ce bijoutier d'ultra-luxe s'adonne à une autre création dont il ne cesse de parfaire les formes.
Voilà, ça c'est l'article du jour.
Sur la page d'accueil de Boutac, des dizaines d'articles reprennent les derniers gros titres de la presse italienne et les relativisent en fonction du contexte, voire les démentent. L'objectif de ce blog, qui cumule aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de vues par mois, c'est l'information crédible et la lutte contre les infox.
Ce que l'on trouve le plus fréquemment aujourd'hui, c'est la manipulation. Ça veut dire que l'information a un fond de vrai, ou en tout cas des éléments réels, et ensuite, selon le contexte, elle est racontée d'une manière ou d'une autre, afin de lui donner une valeur positive ou négative, selon les intentions du journaliste.
En quelques clics, Michelangelo Coltelli remonte le fil des derniers articles. L'un d'eux concerne le président de la République française, Emmanuel Macron, sur qui le quotidien Libero Quotidiano a publié l'article vidéo suivant.
Emmanuel Macron, la terrible gaffe. Il se lave les mains après avoir serré les mains des ouvriers. Alors là, on voit toute la vidéo, sauf qu'en Italie, ils avaient coupé la vidéo pour n'en garder qu'une partie où on le voit s'essuyer les mains avec un mouchoir après avoir serré la main à des ouvriers devant une usine. Alors qu'en regardant toute la vidéo, on voit bien que Macron, le pauvre, avait été pêcher du poisson à main nue. Et alors, on peut comprendre que quand tu viens de pêcher à main nue, dans ton costard de politique, tu as envie ensuite de t'essuyer les mains.
Nel tuo completo da politico, Non hai voglia di far così.
Si certaines fake news le font rire, le fondateur de Boutac ne cache pas sa préoccupation, car certaines fausses informations ont des conséquences dramatiques. C'est la raison d'ailleurs qui l'a poussé à ouvrir une page Facebook en 2013. Son premier enfant est né 2 ans plus tôt et il est effaré des bêtises que certains colportent sur les questions de santé, en premier lieu sur les vaccins, mais aussi sur des superstitions comme ces colliers d'ambre que l'on trouve entre 20 et 25 euros dans les pharmacies pour lutter contre les douleurs des poussées de dents des bébés.
Moi j'étais bijoutier, je connais l'ambre, mon père est chimiste, il est même diplômé en chimie industrielle et il disait « mais il n'y a aucune raison pour laquelle l'ambre aurait ses propriétés ».
En quelques mois, la page Facebook destinée à ses amis reçoit des milliers de visiteurs et fin 2013, il ouvre son blog « Boutac » auquel il consacre aujourd'hui entre 6 et 7 heures par jour.
En fait, entre 2014 et 2016, le phénomène s'est étendu. Les fake news ne se trouvaient plus seulement sur les blogs de contre-information dont il fallait connaître le nom et l'adresse internet, mais bel et bien dans les journaux que l'on achète en kiosque.
Les deux thèmes les plus brûlants deviennent rapidement la politique et les questions migratoires. Son article le plus lu démonte justement l'un des clichés les plus ancrés en Italie depuis plusieurs années.
Celui qui est encore lu, commenté et vu, c'est l'article sur les 35 euros aux migrants. En Italie, si tu vas demander à 100 personnes combien d'argent est donné aux migrants par jour, ils te répondront que tous les jours, les migrants reçoivent 35 euros. Quand tu leur expliques qu'en réalité, le migrant reçoit 1 euro, 1,20 euro, et que le reste de la somme revient aux Italiens qui gèrent les centres d'accueil, que ce sont donc des salaires pour des Italiens, beaucoup d'entre eux ne le comprennent pas. Et du coup, à chaque fois que je le republie, il est partagé des dizaines, voire des centaines de milliers de fois.
Pour vérifier les informations qu'il lit, Michelangelo Coltelli suit une méthodologie journalistique classique. D'abord, il cherche les sources de l'information, quitte à rappeler les interlocuteurs pour comprendre si l'information n'a pas été manipulée. Puis, il utilise aussi les sites de traduction en ligne pour contrôler dans la langue originale de publication l'information et n'hésite pas à utiliser tous les outils comme InVid qui vérifie photos et vidéos.
Pour raconter un mensonge, il faut 5 minutes. Pour le démentir, ça peut prendre plusieurs heures. Et ça ne suffit pas de faire un démenti. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, pour répondre à ceux qui viennent commenter cette nouvelle, modérer leurs propos. Et il faut prendre par la main ceux qui n'ont peut-être pas compris ce que tu as écrit.
Car même démenti, une information peut continuer à circuler et à empoisonner le débat public.
La désinformation, c'est pour moi un problème qui augmente. Mais plus encore, ce qui augmente, c'est le fait de minimiser ce problème. C'est-à-dire que ceux qui ont un intérêt dans ces fake news disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, que ce ne sont que des bêtises.
Michelangelo Coltelli en est convaincu, sans une meilleure utilisation d'Internet, le combat pour une information de qualité sera difficile à relever. Alors, le bijoutier bolognais continue de le faire, inlassablement, depuis 6 ans, bénévolement aussi, et choqué souvent que ce travail ait pu lui valoir menace de mort ou insultes et intimidations.
La Commission européenne a lancé un nouveau plan d'action contre les fake news.
Fausses informations, vérités biaisées ou idées reçues, les populistes italiens s'en sont fait une spécialité. Outre l'Union européenne et l'immigration, l'autre cible préférée reste la presse traditionnelle. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite privilégient la communication sur les réseaux sociaux, lieu d'une parole libre et authentique selon eux. Olivier Bonnel, la première cible, c'est la RAI, la télévision public.
Pour le mouvement 5 étoiles, la RAI est partisane. Pazzesco, incroyable, dénonçait fin octobre sur les réseaux sociaux le mouvement 5 étoiles. Le temps de parole alloué aux partis politiques de l'opposition, des formations de Matteo Renzi et Silvio Berlusconi, serait 3 fois plus important que celui réservé aux partis au pouvoir, 27h32 contre 10h23 pour le mois de septembre dernier. En fait, l'autorité de régulation calcule qu'avec le temps institutionnel, le rapport est inverse. Les partis au pouvoir ont 60 heures d'antenne sur la RAI, donc 2 fois plus que l'opposition. Pour corriger la ligne du groupe audiovisuel public RAI, le pouvoir a donc nommé à sa tête, le 26 septembre dernier, un de ses hommes, Marcello Foa, ancien journaliste du quotidien de droite Il Giornale, anti-vaccin et admirateur de Vladimir Poutine. Son fils travaille au cabinet de Matteo Salvini. Le syndicat des journalistes de la RAI a dénoncé un coup fatal porté au service public. Sa dernière inquiétude, une émission qui se prépare sur RAI Douai pour lutter contre les médias dits mainstream.
L'autre cible de ces mêmes populations populistes au pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les grands titres de la presse écrite.
Oui, selon les ministres populistes, la presse est moribonde car elle relaie des fake news. Elle reste pourtant plutôt solide en Italie, notamment les titres du groupe Gedi, cible favorite du gouvernement. La Repubblica, deuxième quotidien national avec 250 000 exemplaires par jour. Et la Stampa, le troisième, 180 000 exemplaires. Mais aussi l'hebdomadaire L'Espresso, premier newsmag de la péninsule avec 350 000 exemplaires. Selon l'organisme de diffusion de la presse italienne, en octobre dernier, le tirage de la Repubblica avait même augmenté de 1,19% par rapport à l'année précédente. Loin donc d'une presse sur le point de mourir, comme l'a affirmé Luigi Di Maio dans un Facebook Live. Avec 20 millions de visiteurs chaque mois, la Repubblica.it est par ailleurs le premier quotidien national lu sur le web italien. Et malgré les menaces du pouvoir, aucune condamnation pour diffamation n'est tombée contre la presse depuis le mois de juin dernier et l'arrivée du tandem Ligue 5 étoiles, précise l'Ordre des journalistes italiens.
Et Olivier, pour mieux comprendre ces attaques contre la presse traditionnelle, il faut quand même rappeler les rapports problématiques qu'entretient le mouvement 5 étoiles avec Internet.
Oui, dès ses origines, le parti populiste a confié sa communication à Casaleggio Associati, cabinet de conseil spécialisé en stratégie web basé à Milan. C'est cette société qui a lancé le blog de Beppe Grillo en 2005, la spécialité de son mentor Gianroberto Casaleggio qui a cofondé le mouvement 5 étoiles. Faire accepter une opinion et créer un consensus autour d'elle, quitte à relayer une fausse information. Ainsi, l'idée selon laquelle les vaccins développeraient l'autisme a fleuri ces dernières années en Italie. Mais Casaleggio Associati gère également une nébuleuse de sites suspects qui utilisent le nom et le logo du 5 étoiles, mais sont clairement complotistes, se faisant par exemple le relais de sites pro-russes ou gérant des pages carrément xénophobes, une véritable internationale de la désinformation.
Olivier Bonnel, vous avez rencontré également Gianni Riotta.
Tout à fait, Catherine.
Il est l'une des grandes voix des médias en Italie, ancien rédacteur en chef du premier journal télévisé sur la RAI. Il a aussi dirigé le quotidien économique Sole 24 Ore, professeur de journalisme à l'université de Princeton aux États-Unis et à l'université Louis de Rome. Il travaille avec ses étudiants sur la désinformation. L'occasion de lui poser des questions sur l'avenir de la démocratie et du rapport à la réalité.
La crise d'une information équilibrée, professionnelle et impartiale s'est transformée en crise de la démocratie. Il y a une étude américaine très intéressante qui a montré que près de 1600 quotidiens locaux dans les petites villes des États-Unis ont disparu, ce qui a eu pour conséquence une polarisation de l'opinion publique. C'est comme quand une mère disparaît, ses fils commencent alors à se disputer. Si plus rien ne représente les courants traditionnels, alors tout se polarise. Un argument de gauche, on va répondre par un argument de droite et inversement. Le réseau social t'aide si tu as une communication efficace, sinon il ne sert à rien. Quel est le message de la coalition Salvini 5 étoiles? Il est double. Chers Italiens, pas besoin de tenir compte de la mondialisation, de l'innovation, de la technologie. Si vous vivez aujourd'hui dans un des pays les plus pauvres d'Europe, si vous avez perdu le contact avec le reste du monde, c'est parce qu'on vous vole. Et le gouvernement dit, venez à nous, on va vous aider. Si vous êtes une personne âgée, on vous donne une petite retraite pour jouer à la pétanque avec vos amis. Si vous êtes jeune, on vous donne un revenu minimum de citoyenneté. On s'occupe de tout. C'est l'illusion que l'Italie, de manière autarcique, peut s'en sortir toute seule.
Que faut-il faire alors pour relancer la confiance dans les médias en Italie?
Pour combattre la désinformation, il ne suffit pas d'utiliser un algorithme ou une autre plateforme. Il faut savoir redonner confiance aux gens. Il faut regagner l'opinion publique en rappelant sereinement que tout n'est pas relatif, que le vrai est supérieur au faux. Témoigner du vrai est plus noble que semer de fausses informations. Quand tu es journaliste, si les faits confirment ce que tu dis, alors tu es en position de supériorité éthique et professionnelle sur ceux qui trafiquent le réel et propagent les mensonges.
Gianni Riotta, professeur de journalisme à l'université de Princeton, que vous avez rencontré, Olivier Bonnel. Il est donc inconfiant dans la supériorité de la vérité dans une Europe devenue perméable aux vérités alternatives. Merci de nous avoir écoutés. Françoise Grelot était à la réalisation de cette émission spéciale en partenariat avec le Parlement européen. À retrouver sur notre site et Facebook nos vidéos L'Europe en vrai, 6 idées reçues décryptées.